Il n'est pas de plus grand succès que l'état de service dans le royaume divin et l'accès au bon plaisir du Seigneur. Aussi, je souhaite à vos cœurs d'être tournés vers le royaume, à vos intentions d'être pures et sincères, et à vos desseins d'être dirigés vers des réalisations altruistes. Pour cela, il faut oublier votre propre bien-être, et même, il faut que toutes vos intentions soient axées sur le bien de l'humanité. Puissiez-vous ressentir en vous-même le désir de vous sacrifier dans le sentier du dévouement à vos semblables. Comme Sa Sainteté Jésus-Christ a offert sa vie, puissiez-vous de même vous proposer au seuil du sacrifice pour l'amélioration du monde. Et comme Sa Sainteté Bahá'u'lláh a souffri, pendant près de 50 ans, de sévères épreuves et de terribles calamités, puissiez-vous désirer éprouver des difficultés et subir des catastrophes sans nombre, pour le bien de l'humanité en général. Il n'est pas de véritable satisfaction ou de contentement en dehors du bien-être général. Ô peuple de Dieu, ne te préoccupe pas de toi-même, mais de l'amélioration du monde et de l'évolution des nations. C'est par de pures et bonnes actions et par une conduite utile et estimable que le monde peut être amélioré. Les fruits de l'arbre humain furent et restent toujours les bonnes actions et le bon caractère. Ne les traite pas négligemment. Si tu t'en soucies, tu auras atteint ton but et ta vie aura reçu sa pleine signification. Mais si tu t'en désintéresses, ton temps se sera passé en vaines discussions. Ô peuple de Dieu, par l'eau de ta patience et de ton affection, efforce-toi de laver et de purifier les cœurs des différentes familles de la terre de l'animosité et de la haine, et d'en faire des réceptacles parfaits pour la splendeur du soleil de vérité. Si vous désirez la gloire éternelle, soyez humble et soumis en présence du bien-aimé. Soyez le serviteur de tous et servez chacun de la même façon. C'est à Dieu qu'appartiennent les services rendus aux amis, non à eux. Efforcez-vous de devenir une source de joie, d'harmonie et de spiritualité pour les cœurs de vos aimés. Plutôt qu'indolent, soyez actif et intrépide. Si vous cherchez une occupation intelligente et attrayante, plus douce et plus agréable que n'importe quoi, sachez que c'est le service au seuil du Tout-Puissant et la soumission à sa grandeur, le Seigneur des puissances. Avant peu, la mention de Dieu déploiera une merveilleuse influence et finalement ce pays, l'Amérique, deviendra le paradis des abats. Efforcez-vous donc courageusement de réaliser ce but dans un proche avenir. S'efforcer veut dire que vous devez vivre et agir suivant les injonctions et commandements divins, être unis dans l'amour, la joie et le ravissement, et vous donner sans cesse au service de la cause de Dieu. Il n'est pas de plus grand succès que l'état de service dans le royaume divin et l'accès au bon plaisir du Seigneur. Aussi, je souhaite à vos cœurs d'être tournés vers le royaume, à vos intentions d'être purs et sincères et à vos desseins d'être dirigés vers des réalisations altruistes. Pour cela, il faut oublier votre propre bien-être et même, il faut que toutes vos intentions soient axées sur le bien de l'humanité. Puissiez-vous ressentir en vous-même le désir de vous sacrifier dans le sentier du dévouement à vos semblables. Comme Sa Sainteté Jésus-Christ a offert sa vie, puissiez-vous de même vous proposer au seuil du sacrifice pour l'amélioration du monde. Et comme Sa Sainteté Bahá'u'lláh a souffri, pendant près de 50 ans, de sévères épreuves et de terribles calamités, puissiez-vous désirer éprouver des difficultés et subir des catastrophes sans nombre, pour le bien de l'humanité en général. Il n'est pas de véritable satisfaction ou de contentement en dehors du bien-être général. Ô peuple de Dieu, ne te préoccupe pas de toi-même, mais de l'amélioration du monde et de l'évolution des nations. C'est par de pures et bonnes actions et par une conduite utile et estimable que le monde peut être amélioré. Les fruits de l'arbre humain furent et restent toujours les bonnes actions et le bon caractère. Ne les traite pas négligemment. Si tu t'en soucies, tu auras atteint ton but et ta vie aura reçu sa pleine signification. Mais si tu t'en désintéresses, ton temps se sera passé en vaines discussions. Ô peuple de Dieu, par l'eau de ta patience et de ton affection, Efforce-toi de laver et de purifier les cœurs des différentes familles de la terre de l'animosité et de la haine, et d'en faire des réceptacles parfaits pour la splendeur du soleil de vérité. Si vous désirez la gloire éternelle, soyez humble et soumis en présence du bien-aimé. Soyez le serviteur de tous et servez chacun de la même façon. C'est à Dieu qu'appartiennent les services rendus aux amis, non à eux. Efforcez-vous de devenir une source de joie, d'harmonie et de spiritualité pour les cœurs de vos aimés. Plutôt qu'indolent, soyez actif et intrépide. Si vous cherchez une occupation intelligente et attrayante, plus douce et plus agréable que n'importe quoi, sachez que c'est le service au seuil du Tout-Puissant et la soumission à sa grandeur, le Seigneur des puissances. Avant peu, la mention de Dieu déploiera une merveilleuse influence et finalement ce pays, l'Amérique, deviendra le paradis des abats. Efforcez-vous donc courageusement de réaliser ce but dans un proche avenir. S'efforcer veut dire que vous devez vivre et agir suivant les injonctions et commandements divins, être unis dans l'amour, la joie et le ravissement, et vous donner sans cesse au service de la cause de Dieu.
Voyons maintenant ta question concernant l'éducation des enfants. Il t'appartient de leur faire respirer les souffles de l'amour de Dieu, de les diriger vers les choses spirituelles, de les tourner vers Dieu, de leur faire acquérir de bonnes manières, de bonnes habitudes et de louables qualités et vertus, de leur faire étudier les sciences avec la plus grande assiduité, de leur donner le sens du spirituel, de les sensibiliser, dès leur enfance, au parfum de spiritualité et de les élever dans un climat de religiosité et de spiritualité céleste. En vérité, je prie Dieu de les confirmer en ces choses. Les aimés de Dieu et les servantes du miséricordieux doivent, d'une manière vivante et affectueuse, élever leurs enfants à l'école de la vertu et de la perfection. Ils ne doivent se permettre, en ce domaine, ni la mollesse ni la grande indulgence. En vérité, si un enfant ne vivait pas, ce serait meilleur pour lui que de grandir ignorant, car alors, cet enfant innocent serait la victime, dans le cours de sa vie, d'innombrables carences. Il serait incapable de répondre aux questions de Dieu, dénigré et tenu à l'écart par tous. Quel péché ce serait, et quelle grave omission! Voici le premier devoir des aimés de Dieu et des servantes du miséricordieux, s'efforcer, par tous les moyens possibles, d'éduquer les filles aussi bien que les garçons. Il n'y a pas la moindre différence entre eux. L'ignorance est blâmable chez les unes comme chez les autres et la négligence dans l'un et l'autre cas est à réprouver. L'ignorant vaut-il autant que le savant? Le commandement est net concernant les deux sexes. Vu d'une façon réaliste, l'éducation et la culture des filles sont plus nécessaires que celles des garçons, car ces filles deviendront des mères et marqueront de leur empreinte la vie de leurs enfants. Le premier éducateur de l'enfant est la mère. Le bébé, semblable à une verte et tendre pousse, grandira selon la façon dont il sera dirigé. Si l'éducation est droite, il grandira dans la rectitude, et si elle est déviée, la croissance s'en ressentira, et, jusqu'à la fin de sa vie, sa conduite en sera marquée. Il est donc bien établi qu'une fille mal élevée et sans éducation sera, en devenant une mère, le premier facteur de privation, d'ignorance, de négligence et de manque d'éducation pour plusieurs enfants. Ô vous, aimés de Dieu et servantes du miséricordieux, suivant les textes explicites de la beauté bénie, Baha'u'llah, l'enseignement et l'étude sont un devoir. Si quelqu'un reste indifférent à l'égard de ces choses, il se prive lui-même de la grande bonté. Veillez soigneusement à ne pas y manquer. Consacrez tout votre cœur et votre vie à l'éducation de vos enfants, principalement de vos filles. Il n'y aura aucune excuse en cette matière. Voyons maintenant ta question concernant l'éducation des enfants. Il t'appartient de leur faire respirer les souffles de l'amour de Dieu, de les diriger vers les choses spirituelles, de les tourner vers Dieu, de leur faire acquérir de bonnes manières, de bonnes habitudes et de louables qualités et vertus, de leur faire étudier les sciences avec la plus grande assiduité, de leur donner le sens du spirituel, de les sensibiliser, dès leur enfance, au parfum de spiritualité et de les élever dans un climat de religiosité et de spiritualité céleste. En vérité, je prie Dieu de les confirmer en ces choses. Les aimés de Dieu et les servantes du miséricordieux doivent, d'une manière vivante et affectueuse, élever leurs enfants à l'école de la vertu et de la perfection. Ils ne doivent se permettre, en ce domaine, ni la mollesse ni la grande indulgence. En vérité, si un enfant ne vivait pas, ce serait meilleur pour lui que de grandir ignorant, car alors, cet enfant innocent serait la victime, dans le cours de sa vie, d'innombrables carences. Il serait incapable de répondre aux questions de Dieu, dénigré et tenu à l'écart par tous. Quel péché ce serait, et quelle grave omission! Voici le premier devoir des aimés de Dieu et des servantes du miséricordieux, s'efforcer, par tous les moyens possibles, d'éduquer les filles aussi bien que les garçons. Il n'y a pas la moindre différence entre eux. L'ignorance est blâmable chez les unes comme chez les autres et la négligence dans l'un et l'autre cas est à réprouver. L'ignorant vaut-il autant que le savant? Le commandement est net concernant les deux sexes. Vu d'une façon réaliste, l'éducation et la culture des filles sont plus nécessaires que celles des garçons, car ces filles deviendront des mères et marqueront de leur empreinte la vie de leurs enfants. Le premier éducateur de l'enfant est la mère. Le bébé, semblable à une verte et tendre pousse, grandira selon la façon dont il sera dirigé. Si l'éducation est droite, il grandira dans la rectitude, et si elle est déviée, la croissance s'en ressentira, et, jusqu'à la fin de sa vie, sa conduite en sera marquée. Il est donc bien établi qu'une fille mal élevée et sans éducation sera, en devenant une mère, le premier facteur de privation, d'ignorance, de négligence et de manque d'éducation pour plusieurs enfants. Ô vous, aimés de Dieu et servantes du miséricordieux, suivant les textes explicites de la beauté bénie, Baha'u'llah, l'enseignement et l'étude sont un devoir. Si quelqu'un reste indifférent à l'égard de ces choses, il se prive lui-même de la grande bonté. Veillez soigneusement à ne pas y manquer. Consacrez tout votre cœur et votre vie à l'éducation de vos enfants, principalement de vos filles. Il n'y aura aucune excuse en cette matière. Ainsi, puisse la gloire éternelle et la suprématie infinie briller, comme le soleil de midi, dans l'assemblée des peuples de Baha, et puisse ainsi le cœur d'Abdu'l-Baha rayonner de bonheur et de reconnaissance. Apprenez à vos enfants ce qui fut révélé par la plume suprême, instruisez-les de ce qui fut envoyé du ciel de pouvoir et de grandeur, et qu'ils retiennent les tablettes du miséricordieux. Mon Dieu, éduquez ces enfants. Ce sont les plantes de ton verger, les fleurs de ta prairie, les roses de ton jardin. Que ta pluie vienne les arroser, que le soleil de réalité brille sur eux de tout son amour. Que ta brise les rafraîchisse afin qu'ils soient bien dirigés, qu'ils puissent croître, se développer et montrer les plus belles qualités. Tu es le dispensateur, tu es le compatissant. Ô Seigneur sans égal, sois un protecteur pour cet enfant délaissé, sois bon et généreux pour ce faible et ce pécheur. Ô Créateur, bien que nous soyons des herbes inutiles, nous sommes cependant de ton jardin. Bien que nous soyons de jeunes arbres sans feuilles ni fleurs, nous sommes cependant de ton verger. Nourris donc cette herbe par la pluie de ta bonté et, par les brises de ton printemps spirituel, rafraîchis et vivifie ces arbres frêles et languissants. Éveillez-nous, éclaire-nous, soutiens-nous, donne-nous la vie éternelle et reçois-nous dans ton royaume. Ainsi, puisse la gloire éternelle et la suprématie infinie briller, comme le soleil de midi, dans l'assemblée des peuples de Baha, et puisse ainsi le cœur d'Abdu'l-Baha rayonner de bonheur et de reconnaissance. Apprenez à vos enfants ce qui fut révélé par la plume suprême, instruisez-les de ce qui fut envoyé du ciel de pouvoir et de grandeur, et qu'ils retiennent les tablettes du miséricordieux. Mon Dieu, éduquez ces enfants. Ce sont les plantes de ton verger, les fleurs de ta prairie, les roses de ton jardin. Que ta pluie vienne les arroser, que le soleil de réalité brille sur eux de tout son amour. Que ta brise les rafraîchisse afin qu'ils soient bien dirigés, qu'ils puissent croître, se développer et montrer les plus belles qualités. Tu es le dispensateur, tu es le compatissant. Ô Seigneur sans égal, sois un protecteur pour cet enfant délaissé, sois bon et généreux pour ce faible et ce pécheur. Ô Créateur, bien que nous soyons des herbes inutiles, nous sommes cependant de ton jardin. Bien que nous soyons de jeunes arbres sans feuilles ni fleurs, nous sommes cependant de ton verger. Nourris donc cette herbe par la pluie de ta bonté et, par les brises de ton printemps spirituel, rafraîchis et vivifie ces arbres frêles et languissants. Éveillez-nous, éclaire-nous, soutiens-nous, donne-nous la vie éternelle et reçois-nous dans ton royaume.
Il incombe à chacun d'acquérir la connaissance, mais ce qu'il faut connaître, ce sont les sciences utiles aux peuples de la terre et non celles qui, commençant par de simples mots, se terminent encore par des mots. Celui qui possède les sciences ou les arts possède un grand privilège vis-à-vis des peuples du monde. En vérité, le vrai trésor de l'homme est son savoir, c'est le chemin de l'honneur, de la prospérité, de la joie et du bonheur. Puisque tu m'as questionné concernant l'abandon de tes études scientifiques à Paris pour te consacrer à la diffusion de cette vérité, je te dirai que cette intention est vraiment admissible et aimable, mais que si tu acquérais les deux choses, ce serait meilleur et plus parfait, parce que, en ce nouveau siècle, la connaissance des sciences, des arts et des belles-lettres, qu'elles soient divines ou terrestres, matérielles ou spirituelles, est une chose acceptable devant Dieu et un devoir qu'il nous appartient de remplir. Par conséquent, il ne faut jamais sacrifier le spirituel aux choses matérielles, on doit alors s'intéresser aux deux. Néanmoins, pendant que vous travaillez à l'acquisition de la science, vous devez rester sensible à l'attrait de l'amour de votre Seigneur glorieux et soucieux de mentionner partout son nom admirable. Ceci étant, vous devez mener l'art que vous étudiez à sa perfection. Il incombe à chacun d'acquérir la connaissance, mais ce qu'il faut connaître, ce sont les sciences utiles aux peuples de la terre et non celles qui, commençant par de simples mots, se terminent encore par des mots. Celui qui possède les sciences ou les arts possède un grand privilège vis-à-vis des peuples du monde. En vérité, le vrai trésor de l'homme est son savoir, c'est le chemin de l'honneur, de la prospérité, de la joie et du bonheur. Puisque tu m'as questionné concernant l'abandon de tes études scientifiques à Paris pour te consacrer à la diffusion de cette vérité, je te dirai que cette intention est vraiment admissible et aimable, mais que si tu acquérais les deux choses, ce serait meilleur et plus parfait, parce que, en ce nouveau siècle, la connaissance des sciences, des arts et des belles-lettres, qu'elles soient divines ou terrestres, matérielle ou spirituelle, est une chose acceptable devant Dieu et un devoir qu'il nous appartient de remplir. Par conséquent, il ne faut jamais sacrifier le spirituel aux choses matérielles, on doit alors s'intéresser aux deux. Néanmoins, pendant que vous travaillez à l'acquisition de la science, vous devez rester sensible à l'attrait de l'amour de votre Seigneur glorieux et soucieux de mentionner partout son nom admirable. Ceci étant, vous devez mener l'art que vous étudiez à sa perfection. L'homme devrait connaître son « moi » et pouvoir distinguer les choses qui l'élèvent de celles qui l'abaissent, celles qui le conduisent à la honte ou qui le mènent à l'honneur, à l'aisance ou à la pauvreté. Dès que l'homme a pris conscience de sa personne et atteint sa maturité, la richesse devient pour lui un besoin. Il faut approuver cette richesse si elle provient de l'exercice d'un métier ou d'une profession. Dans la cause Bâille, les arts, les sciences et tous les métiers sont regardés comme un culte. L'homme qui, consciencieusement, fabrique du papier à écrire en consacrant à son travail toutes ses capacités, en tâchant de toutes ses forces d'en améliorer le rendement, cet homme est en train d'adresser des louanges à Dieu. En résumé, tout effort accompli de tout cœur est un culte s'il est inspiré par des mobiles élevés et par le désir de se rendre utile. Servir l'humanité et pourvoir aux besoins des hommes est un culte. Le service est une prière. Le vrai devoir du serviteur, en ce monde, est d'honorer sa profession et de faire face à ses devoirs d'État, de persévérer dans le chemin de Dieu et de ne désirer que sa grâce, puisqu'aussi bien notre sort est entièrement entre ses mains. Au serviteur, le meilleur des hommes est celui qui s'est créé des ressources par son travail et qui, pour l'amour de Dieu, le Seigneur de tous les mondes, les consacre à lui-même et aux siens. Il te convient de t'affranchir de tout désir, sauf de ton Seigneur, le Suprême, de n'attendre secours ni aide de personne, même de ton père, même de tes enfants. Renonce à toi-même pour Dieu. Contente-toi de peu. L'économie, en vérité, est un grand trésor. Si l'un de tes parents te fait tort, ne porte pas la chose devant le tribunal, montre plutôt une patience infinie dans le malheur ou la souffrance. En vérité, ton maître est le Seigneur de fidélité. Oublie et néglige les manquements qui apparaissent chez autrui afin de sauvegarder l'amour et l'affection. L'homme devrait connaître son « moi » et pouvoir distinguer les choses qui l'élèvent de celles qui l'abaissent, celles qui le conduisent à la honte ou qui le mènent à l'honneur, à l'aisance ou à la pauvreté. Dès que l'homme a pris conscience de sa personne et atteint sa maturité, la richesse devient pour lui un besoin. Il faut approuver cette richesse si elle provient de l'exercice d'un métier ou d'une profession. Dans la cause Bâille, les arts, les sciences et tous les métiers sont regardés comme un culte. L'homme qui, consciencieusement, fabrique du papier à écrire en consacrant à son travail toutes ses capacités, en tâchant de toutes ses forces d'en améliorer le rendement, cet homme est en train d'adresser des louanges à Dieu. En résumé, tout effort accompli de tout cœur est un culte s'il est inspiré par des mobiles élevés et par le désir de se rendre utile. Servir l'humanité et pourvoir aux besoins des hommes est un culte. Le service est une prière. Le vrai devoir du serviteur, en ce monde, est d'honorer sa profession et de faire face à ses devoirs d'État, de persévérer dans le chemin de Dieu et de ne désirer que sa grâce, puisqu'aussi bien notre sort est entièrement entre ses mains. Au serviteur, le meilleur des hommes est celui qui s'est créé des ressources par son travail et qui, pour l'amour de Dieu, le Seigneur de tous les mondes, les consacre à lui-même et aux siens. Il te convient de t'affranchir de tout désir, sauf de ton Seigneur, le Suprême, de n'attendre secours ni aide de personne, même de ton père, même de tes enfants. Renonce à toi-même pour Dieu. Contente-toi de peu. L'économie, en vérité, est un grand trésor. Si l'un de tes parents te fait tort, ne porte pas la chose devant le tribunal, montre plutôt une patience infinie dans le malheur ou la souffrance. En vérité, ton maître est le Seigneur de fidélité. Oublie et néglige les manquements qui apparaissent chez autrui afin de sauvegarder l'amour et l'affection. Sache que rien ne t'est plus utile en cette vie que la supplication et l'invocation de Dieu, le travail dans son vignoble et la soumission parfaite et affectueuse à sa volonté. Ô toi qui es fier de tes possessions terrestres, sache en vérité que la richesse est une solide barrière entre le chercheur et l'objet de son désir, entre celui qui aime et l'aimé. Les riches, sauf quelques exceptions, n'atteindront pas la cour de sa présence et n'auront pas accès à la cité du contentement et de la résignation. Heureux celui qui, étant riche, ne se laisse pas détourner du royaume par ses trésors et ne se prive pas, à cause d'eux, de l'impérissable domaine. Par le plus grand nom, l'éclat d'un tel riche illuminera les habitants du ciel comme le soleil éclaire les peuples de la terre. Ceux qui possèdent la richesse doivent avoir les plus grands égards pour les pauvres, car grand est l'honneur que Dieu leur destine en récompense de leur patience inébranlable. Par ma vie, il n'est pas d'honneur, sauf celui qu'il plaît à Dieu de dispenser, qui puisse lui être comparé. Grande est la bénédiction réservée aux pauvres qui endurent patiemment ces souffrances en les dissimulant, et heureux sont les riches qui consacrent leur richesse aux nécessiteux et qui préfèrent ceux-ci à eux-mêmes. Il plaît à Dieu que les pauvres s'efforcent d'acquérir des moyens d'existence. C'est là un devoir qui fut, dans la plus grande révélation, prescrit à chacun et qui est considéré par Dieu comme une bonne action. Celui qui l'observe recevra assurément l'aide de l'invisible. Il peut, par sa grâce, rendre riche qui il lui plaît. Il a en vérité pouvoir sur toute chose. Sache que rien ne t'est plus utile en cette vie que la supplication et l'invocation de Dieu, le travail dans son vignoble et la soumission parfaite et affectueuse à sa volonté. Ô toi qui es fier de tes possessions terrestres, sache en vérité que la richesse est une solide barrière entre le chercheur et l'objet de son désir, entre celui qui aime et l'aimé. Les riches, sauf quelques exceptions, n'atteindront pas la cour de sa présence et n'auront pas accès à la cité du contentement et de la résignation. Heureux celui qui, étant riche, ne se laisse pas détourner du royaume par ses trésors et ne se prive pas, à cause d'eux, de l'impérissable domaine. Par le plus grand nom, l'éclat d'un tel riche illuminera les habitants du ciel comme le soleil éclaire les peuples de la terre. Ceux qui possèdent la richesse doivent avoir les plus grands égards pour les pauvres, car grand est l'honneur que Dieu leur destine en récompense de leur patience inébranlable. Par ma vie, il n'est pas d'honneur, sauf celui qu'il plaît à Dieu de dispenser, qui puisse lui être comparé. Grande est la bénédiction réservée aux pauvres qui endurent patiemment ces souffrances en les dissimulant, et heureux sont les riches qui consacrent leur richesse aux nécessiteux et qui préfèrent ceux-ci à eux-mêmes. Il plaît à Dieu que les pauvres s'efforcent d'acquérir des moyens d'existence. C'est là un devoir qui fut, dans la plus grande révélation, prescrit à chacun et qui est considéré par Dieu comme une bonne action. Celui qui l'observe recevra assurément l'aide de l'invisible. Il peut, par sa grâce, rendre riche qui il lui plaît. Il a en vérité pouvoir sur toute chose.
Seigneur, nous inspirons la pitié, accorde-nous ta faveur, nous sommes pauvres, donne-nous une part de ton abondante richesse, nous sommes dénués, pourvois à nos besoins, humiliés, donne-nous ta gloire. Les oiseaux du ciel et les bêtes des champs reçoivent de toi, chaque jour, leur nourriture, et toutes les créatures prennent leur part de ta sollicitude et de ta tendre bonté. Ne prive pas cet être faible de ta grâce prodigieuse, et, par ton pouvoir, daigne accorder ta bonté à cette âme abandonnée. Donne-nous notre pain quotidien, accrois tes bienfaits en notre faveur pour que nous puissions faire face aux exigences de la vie et rester indépendants de tout autre que toi, que nous puissions communier pleinement avec toi, marcher dans ta voie et proclamer tes mystères. Tu es le Tout-Puissant, le Dieu d'amour, la providence de toute l'humanité. Seigneur, nous inspirons la pitié, accorde-nous ta faveur, nous sommes pauvres, donne-nous une part de ton abondante richesse, nous sommes dénués, pourvois à nos besoins, humiliés, donne-nous ta gloire. Les oiseaux du ciel et les bêtes des champs reçoivent de toi, chaque jour, leur nourriture, et toutes les créatures prennent leur part de ta sollicitude et de ta tendre bonté. Ne prive pas cet être faible de ta grâce prodigieuse, et, par ton pouvoir, daigne accorder ta bonté à cette âme abandonnée. Donne-nous notre pain quotidien, accrois tes bienfaits en notre faveur pour que nous puissions faire face aux exigences de la vie et rester indépendants de tout autre que toi, que nous puissions communier pleinement avec toi, marcher dans ta voie et proclamer tes mystères. Tu es le Tout-Puissant, le Dieu d'amour, la providence de toute l'humanité. Ô vous, riches de la terre, les pauvres sont un dépôt que je vous ai confié. Prenez en soin et ne soyez pas occupés uniquement de votre propre bien-être. Un homme devrait être une source permanente de bien-être et une aide toujours prête pour la prospérité de nombre de ses semblables. Le vrai chercheur devrait secourir le dépossédé et ne jamais marchander sa faveur pour le dénuer. S'il doit faire preuve de bonté envers l'animal, combien plus encore en a-t-il le devoir envers son frère, celui qui a reçu la parole? Dieu n'exige d'aucune âme ce qui dépasse ses capacités. À celui qui fait une bonne action, Dieu la rendra au centuple. Il n'est pas douteux que le Seigneur vivant assistera et confirmera les âmes généreuses. Ô vous, riches de la terre, les pauvres sont un dépôt que je vous ai confié. Prenez en soin et ne soyez pas occupés uniquement de votre propre bien-être. Un homme devrait être une source permanente de bien-être et une aide toujours prête pour la prospérité de nombre de ses semblables. Le vrai chercheur devrait secourir le dépossédé et ne jamais marchander sa faveur pour le dénuer. S'il doit faire preuve de bonté envers l'animal, combien plus encore en a-t-il le devoir envers son frère, celui qui a reçu la parole? Dieu n'exige d'aucune âme ce qui dépasse ses capacités. À celui qui fait une bonne action, Dieu la rendra au centuple. Il n'est pas douteux que le Seigneur vivant assistera et confirmera les âmes généreuses. Demandez à Dieu d'atteindre à la maturité qui vous permettra de discerner la beauté et la laideur des faits et des gestes. Sa grandeur, le Christ, s'est adressé au monde en disant : « Si vous ne devenez comme ces petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume. » Cela signifie que les hommes doivent purifier leur cœur s'ils veulent connaître Dieu. Les cœurs des petits-enfants sont merveilleusement purs, ce sont des miroirs que n'a encore terni aucune poussière. Mais cette pureté est un effet de leur faiblesse et de leur innocence et non de leur force et de leur effort, car, étant dans l'âge tendre, le monde n'a pas encore souillé leur cœur et leur âme. Incapables de déployer une grande intelligence, ils n'ont ni hypocrisie, ni fourberie. Ceci est le fait de la faiblesse enfantine, tandis que c'est par ses efforts que l'homme doit devenir pur, c'est par le pouvoir de son intelligence qu'il doit devenir simple et par celui de sa raison et de sa compréhension, non par sa faiblesse, qu'il arrive à la sincérité. Parvenu à un certain degré de perfection, il reçoit ses qualités, son cœur se purifie, son esprit s'éclaire, son âme devient tendre et sensible, et tout ceci, sans perdre sa force. C'est ce qui différencie l'homme de l'enfant, mais tous deux possèdent au fond d'eux-mêmes les qualités de simplicité et de sincérité. La source du pouvoir et de la puissance, c'est de promouvoir la parole de Dieu et de rester ferme en son amour. Ô mon fils, la fréquentation des incroyants augmentera ta douleur, tandis que la compagnie des justes fera tomber la rouille de ton cœur. Que celui qui désire communier avec Dieu recherche la compagnie de ses aimés, et que celui qui veut écouter la parole de Dieu prête l'oreille aux paroles de ses élus. La courtoisie est une parure qui va bien à tout homme, qu'il soit jeune ou vieux. Heureux celui qui en orne son temple et malheur à ceux qui se privent de ce grand bienfait. La modération est nécessaire en toute chose. L'homme doit tirer leçon des actions divines car Dieu admet qu'un arbre croisse longtemps avant d'arriver à la perfection. Il eût pu rendre l'arbre productif en un seul instant, mais un développement graduel correspondait à la sagesse. L'essence de la sagesse est la crainte de Dieu, la peur de son châtiment, et l'appréhension de sa justice et de son décret. Cette crainte de Dieu est le général en chef de l'armée de ton Seigneur. Les bonnes actions et les louanges à travers les siècles en sont les troupes, elles forcent les citadelles des cœurs humains, et les étendards de leur conquête et de leur triomphe flottent au-dessus de tous les autres. Demandez à Dieu d'atteindre à la maturité qui vous permettra de discerner la beauté et la laideur des faits et des gestes. Sa grandeur, le Christ, s'est adressé au monde en disant « Si vous ne devenez comme ces petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume. » Cela signifie que les hommes doivent purifier leur cœur s'ils veulent connaître Dieu. Les cœurs des petits-enfants sont merveilleusement purs, ce sont des miroirs que n'a encore terni aucune poussière. Mais cette pureté est un effet de leur faiblesse et de leur innocence et non de leur force et de leur effort, car, étant dans l'âge tendre, le monde n'a pas encore souillé leur cœur et leur âme. Incapables de déployer une grande intelligence, ils n'ont ni hypocrisie, ni fourberie. Ceci est le fait de la faiblesse enfantine, tandis que c'est par ses efforts que l'homme doit devenir pur, c'est par le pouvoir de son intelligence qu'il doit devenir simple et par celui de sa raison et de sa compréhension, non par sa faiblesse, qu'il arrive à la sincérité. Parvenu à un certain degré de perfection, il reçoit ses qualités, son cœur se purifie, son esprit s'éclaire, son âme devient tendre et sensible, et tout ceci, sans perdre sa force. C'est ce qui différencie l'homme de l'enfant, mais tous deux possèdent au fond d'eux-mêmes les qualités de simplicité et de sincérité. La source du pouvoir et de la puissance, c'est de promouvoir la parole de Dieu et de rester ferme en son amour. Ô mon fils, la fréquentation des incroyants augmentera ta douleur, tandis que la compagnie des justes fera tomber la rouille de ton cœur. Que celui qui désire communier avec Dieu recherche la compagnie de ses aimés, et que celui qui veut écouter la parole de Dieu prête l'oreille aux paroles de ses élus. La courtoisie est une parure qui va bien à tout homme, qu'il soit jeune ou vieux. Heureux celui qui en orne son temple et malheur à ceux qui se privent de ce grand bienfait. La modération est nécessaire en toute chose. L'homme doit tirer leçon des actions divines car Dieu admet qu'un arbre croisse longtemps avant d'arriver à la perfection. Il eût pu rendre l'arbre productif en un seul instant, mais un développement graduel correspondait à la sagesse. L'essence de la sagesse est la crainte de Dieu, la peur de son châtiment et l'appréhension de sa justice et de son décret. Cette crainte de Dieu est le général en chef de l'armée de ton Seigneur. Les bonnes actions et les louanges à travers les siècles en sont les troupes, elles forcent les citadelles des cœurs humains, et les étendards de leur conquête et de leur triomphe flottent au-dessus de tous les autres.